Bonjour, bonjour à tous. Je peux avoir la première image? Beaucoup de chrétiens, enfin, parlent de la foi. La foi, pas le foi. La foi qui sauve, celle qui déplace les montagnes ou qui devrait le faire, la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, d'après l'Épître aux Hébreux, la foi qui doit faire vivre le juste, d'après l'Épître aux Romains. Mais au fond, qu'est-ce que c'est, la foi? Alors avant de vous commencer à vous en parler, j'aimerais faire un petit sondage parmi vous. Pouvez-vous me donner une définition de la foi? C'est de croire à tout ce qu'on nous a dit ce matin. Oui, ça c'est à propos, juste, je peux faire juste une parenthèse, on reviendra à ma question après. Je voudrais quand même remercier Pascal parce qu'on est en train de réfléchir à l'endroit où on va passer nos vacances. Et Pascal nous a amenés au ciel pendant 1 heure ce matin. Et c'était vraiment formidable. Pascal, et puis on y a tous participé, je crois. Bon, je reviens à ma question. Qu'est-ce que c'est la foi? Donc de croire à tout ce qu'on nous a dit ce matin. Oui, il y avait d'autres réponses? Mettre sa confiance en Dieu, oui. De croire sans voir, oui. C'est tout? De croire qu'il est mort pour nos péchés. Oui? C'est croire sans preuve. Oui, ça c'est bien ça. C'est bien, mais il en manque un petit bout. Pardon? Croire à quoi? Alors, je vous ai mis un triangle. Parce que pour moi, et je crois que pour nos Bibles aussi, croire, ça peut se résumer. En tout cas, ça comporte trois composantes que je vous présenterai par trois verbes. Voilà, tout ça, c'est la foi. Le premier verbe, on en a bien parlé. Le premier verbe, c'est croire. C'est ce qui vient le plus rapidement, notre pensée, avoir la foi, c'est croire, croire ce que dit la Bible. C'est pour cela que nous la lisons. Croire ce que dit Dieu, puisque il parle dans la Bible. Croire ce que dit Jésus, puisque il est la parole de Dieu, en utilisant la capacité de compréhension que nous donne le Saint-Esprit. Jésus dit, non, pardon, Jean dit ceci à la fin de son évangile. Il dit pourquoi il l'a écrit, son évangile. Il l'a écrit, on trouve ça Jean 20, verset 31, « Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. » À l'inverse, ceux qui ne croient pas n'ont pas la foi, sont jugés. Toujours dans l'évangile de Jean, on connaît bien Jean 3, 16, mais lisons Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, il est important de croire. Et la foi, je vous l'accorde, c'est croire. Et qu'est-ce que c'est que croire? C'est faire confiance à Dieu. C'est ce qui illustre la vie d'Abraham. Abraham qui ne nous est pas du tout présenté comme un homme parfait, comme un homme sans défaut, loin de là, mais comme quelqu'un qui fut approuvé par Dieu parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Et On a ce passage que vous avez plus ou moins cité tout à l'heure, Hébreux 11, verset 1, « La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors, comment fait-on pour croire ? C'est une petite parenthèse, mais c'est intéressant de savoir, parce que peut-être certains se disent « Moi, je voudrais bien croire, mais comment fait-on ?» Eh bien, il y a trois sources. Il y a trois sources pour croire, la nature, on a chanté tout à l'heure que les arbres battaient des mains. Je n'ai jamais vu des arbres battre des mains, mais l'image est belle. En ce moment, il suffit de se promener un peu dans la campagne pour voir la nature qui bat des mains, enfin qui est tellement belle, tellement verte, tellement florissante. Et Paul disait aux Romains, chapitre 1, verset 20, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Donc la nature nous enseigne l'existence d'un Dieu, et d'un Dieu parfait, d'un Dieu qui n'est pas compris dans sa création, mais en dehors d'elle. Et puis il y a la conscience. La conscience, c'est le souvenir qui reste en nous de notre création en image de Dieu. Oh, elle est plus ou moins pervertie par le péché, mais elle est quand même suffisante pour que dans notre cœur, il y ait la notion qu'il y a du bien et du mal. Et qu'elle est aussi suffisante pour que souvent nous disions, nous ne faisons pas le bien. En tout cas, pas tout le temps. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de Dieu sont des insensés. C'est ce que dit le psaume 14. Et puis, il y a la troisième source, c'est la parole de Dieu, bien sûr. La Bible qui met des mots, des précisions sur ce que notre perception de la nature ou sur ce que notre conscience avait pu nous faire pressentir, mais de façon un peu vague. Pour que nous puissions saisir ce que dit Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit. Vous connaissez ce passage de Galates 5 qui dit « Quel est le fruit de l'Esprit ? » Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La foi est un fruit de l'Esprit parce qu'il nous permet de comprendre, d'intégrer ce que Dieu nous dit. Alors, croire, c'est quelque chose qui se construit pas à pas. On en trouve d'abord une porte. On regarde, comme disait Cathy tout à l'heure, par le trou de la serrure. Et puis, si on ne refuse pas à Dieu la possibilité d'exister, c'est un peu le témoignage de Pierre-Yves, si je me souviens bien, c'est de se dire un jour, dans sa vie, alors qu'il l'avait refusé jusque-là, et si Dieu existait, est-ce qu'il pourrait me parler, me dire quelque chose pour confirmer cette existence ? C'est ce que Jésus a dit à Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, d'accord. Mais croire, est-ce que ça résume la foi ? Je vous ai dit non. Je pense que croire ne résume pas la foi. La preuve, c'est que certains croient et qu'ils n'ont pas la foi. Les démons, par exemple, c'est ce que nous dit l'épître de Jacques. On va y revenir tout à l'heure. Donc, croire ne résume pas la foi. Et il y a une autre composante. Obéir. Mais oui, obéir. C'est marqué en bas, hein, pour ceux qui... Voilà. Je pousse un peu la chair. Obéir. La foi est une obéissance, une soumission. Paul décrit son apostolat en disant « J'ai reçu la grâce d'être apôtre, pourquoi faire ? Pour amener des hommes de toute nation à lui obéir en croyant. » Et nous avons parlé tout à l'heure de la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, il a cru, ben oui, mais il s'est pas contenté de croire. Il a marché, il a quitté son pays, il a abandonné sa famille. Enfin, ses ancêtres, il a abandonné sa sécurité et il est allé là où Dieu lui disait. C'est par la foi qu'Abraham a obéi nous dit Hébreux 11, 8. Alors, Jacques, vous connaissez Jacques, hein, le frère du Seigneur, un petit frère, il en fait son cheval de bataille. Il nous dit, Jacques 2, verset 18, quelqu'un dira peut-être, toi tu as la foi, moi j'ai les actions, les actes, l'obéissance, quoi. Alors je lui répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Quant à moi, je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Oui, très bien, tu as raison. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Insensé que tu es, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile ? Comment Abraham, on y revient, notre ancêtre a-t-il été reconnu comme juste par Dieu à cause de ses actes ? Parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel, tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient. Et les actes dont il est parlé là, c'est des actes d'obéissance à Dieu, puisqu'il y avait un ordre précis de Dieu. Un peu plus loin, Jacques chapitre 4 dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Donc, l'épître de Jacques illustre abondamment cela. Croire ne suffit pas, il faut que la foi engendre des actes qui sont un comportement, et ce comportement, c'est une obéissance à Dieu. Et Paul l'écrit ça aussi à Tite. À Tite, il dit au chapitre 2, c'est un passage qui est bien connu, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde. » Et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant, on en a parlé tout à l'heure, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des œuvres bonne, zélé pour des œuvres bonnes. Avoir la foi, ce n'est pas seulement croire, c'est obéir et agir dans ce que Dieu nous demande de faire. Mais je crois qu'il y a une troisième composante. On me souffle persévérer. Je pense qu'on peut persévérer dans le fait de croire et dans le fait d'obéir. Donc quelque chose de différent. Allez, je vous mets sur la voie. On a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton... Il ne suffit pas de croire et d'obéir. Les pharisiens, ils croyaient, ils obéissaient. Ils obéissaient tellement qu'ils avaient même rajouté des commandements. Ils avaient oublié d'aimer. En gros, c'est ce que Jésus leur reproche. Croire et obéir, ça ne suffit pas, ça ne fait pas la foi. La foi, il faut un troisième pôle. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. La foi, ce n'est pas seulement croire, ce n'est pas seulement agir, c'est aussi aimer. Aimer Dieu, pas seulement lui obéir comme un maître terrifiant, l'aimer. Aimer Jésus, incarnation du Dieu vivant. Vouloir ce qu'il veut. Souhaiter ce qui le réjouit. Rejeter ce qui l'attriste. Et aussi, aimer les hommes et les femmes que notre Dieu a créés, qui nous entourent. Vous connaissez la réponse de Jésus, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu, voici le deuxième commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer les hommes, aimer notre prochain. Essayez de les aider autant que c'est possible. Alors, aimer et obéir, ça va de pair. C'est ce que Jésus dit à ses disciples, Jean 14, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Et dans l'autre sens, un peu plus loin, « Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. » Aimer et croire, ça va aussi ensemble. Toujours dans l'évangile de Jean, Jésus dit à ses disciples, Jean 16, verset 27, « Le Père vous aime. Pourquoi ? Parce que vous m'aimez et parce que vous avez cru que je suis venu de lui. » Aimer et croire, ça va ensemble. Alors, il ne faut pas oublier une des trois composantes. Sinon, mon triangle, il a une drôle de tête. Notre foi doit être équilibrée pour pouvoir grandir. Le moraliste obéit. Lui, il a l'obéissance. Mais comme on obéit au code de la route, quoi. Quand vous obéissez au code de la route, vous n'aimez pas forcément profondément celui qui a écrit le code de la route. Vous ne vous interrogez même pas tellement sur son existence. Vous obéissez, point. Le pharisien, on l'a dit, lui, il croit et il obéit. Il a oublié d'aimer. Parfois, on a aussi des gens qui ont au contraire tellement pensé que Dieu est amour qu'ils ont oublié le reste. Ah ben, ils croient qu'il existe. L'obéissance, c'est le bon Dieu. Hein ? De toute façon, il est tellement bon qu'il pardonnera tout le monde. En oubliant qu'il a des exigences de pureté, de droiture, de justice, que la Bible nous parle de péché, de jugement. Voilà, toutes ces déformations, ça peut nous arriver à certains moments de notre vie. Attention aussi à l'optimisme béat. Et puis, il y a le nouveau chrétien, le chrétien récemment converti, celui à qui on a dit, la foi, c'est pas compliqué, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ben, c'est vrai, c'est dans la Bible. Mais c'est un début, ça. Il ne faut pas que les nouveaux convertis s'imaginent que croire, ça résume complètement la foi. Et des fois, j'ai eu l'impression tout à l'heure que nous-mêmes, on l'oublie. Que la foi, ce n'est pas que croire, c'est aussi aimer et obéir. Alors, si un jeune converti le croit, c'est parce qu'on lui a dit. Alors, attention aussi, est-ce que la façon dont nous transmettons la foi, dont nous en parlons, la foi, ce n'est pas que croire. Un incroyant doit croire, mais un croyant doit croître. Et c'est dur à dire, hein, je me suis entraîné. Hein? Je recommence. Un incroyant doit croire, mais un croyant doit croître. Et notamment doit croître dans ces deux termes d'aimer et obéir. Paul dit aux Philippiens, il parle de Jésus, enfin, des perfections de Jésus et de ce qu'il a fait, Philippiens 2, afin qu'au nom de Jésus, on en a aussi parlé un petit peu tout à l'heure, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est le but ultime. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais encore présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochable et pur. Des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Mes amis, est-ce que vous vous sentez des flambeaux dans le monde ? Est-ce que nous nous sentons des flambeaux dans le monde ? Si notre foi est ainsi, nous devrions être des flambeaux dans le monde. En croyant, en aimant et en obéissant. Alors, je vais conclure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le triangle que je vous ai mis est impossible. Hein, c'est un dessin, mais il est impossible. Je l'ai choisi pour illustrer cette prédication parce que je voulais signaler que c'était une unité, quelque chose qui était indissociable et en même temps quelque chose d'irréalisable pour nous si le Seigneur ne nous aide pas. Si le Saint-Esprit nous honnête pas. un des côtés ne va pas sans l'autre, et le tout forme une unité. C'est ce que dit Jean dans sa première épître. Ça sera le dernier texte que je vais vous citer, et c'est celui qui est marqué dans les petites feuilles vertes. Alors d'habitude, celui qu'on met sur les feuilles, c'est le texte qu'on lit en premier. Ben moi, ça sera le texte que je vais vous lire en dernier. Première épître de Jean, chapitre 5. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. On a déjà vu dans ce texte, croire, aimer, obéir. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez que ce n'est pas simplement sorti de ma tête que de vous dire que la foi, c'est croire, aimer et obéir. Donc trois verbes pour souligner que c'est un processus actif. Ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça, tout chaud, tout cuit, et qui va, où nous ne sommes responsables de rien. C'est quelque chose que nous devons développer. Nous devons développer notre foi, c'est-à-dire notre capacité de croire, notre capacité d'obéir, notre capacité d'aimer. Et pour cela, nous pouvons demander au Seigneur. Seigneur, augmente notre foi. C'était ce que les disciples ont demandé à Jésus. Seigneur, augmente notre foi. Et bien, quand nous faisons cette prière à Dieu, nous lui demandons d'augmenter harmonieusement nos capacités à connaître, à croire, à l'obéir et à l'aimer. Merci.